Voilà, on attaque le message ce matin et le thème que Dieu m'a mis à cœur pour ce dimanche, c'est ce thème « Étends mes limites ». Ce matin, on va regarder à la prière d'un homme, méconnu de la Bible, mais dont où sa prière a complètement changé sa destinée. Perdu au milieu d'une liste de généalogies de 9 chapitres, ce personnage va nous apprendre ce qui peut se produire lorsque nous plaçons tout ce qui peut nous limiter entre les mains de Dieu. Loin d'accepter la fatalité sur sa vie, ce dernier va la défier et cela va le conduire du désespoir à l'espoir et du deuil à la victoire et de la douleur à la victoire. Ce personnage se nomme Jaébetz et on le découvre dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Ce matin, c'est deux petits versets, mais deux petits versets qui ont la capacité de transformer nos vies si on prend connaissance, si on s'appuie sur l'expérience de Jaébetz pour notre propre expérience dans notre quotidien. On commence la lecture, 1 Chronique 4, versets 9 à 10. On nous dit « Jaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jaébetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que loin du malheur j'échappe à la douleur, » et Dieu accorda tout ce qu'il avait demandé. Amen. » Le premier point ce matin que je veux soulever, c'est que notre douleur n'est pas une fatalité. Notre douleur n'est pas une fatalité. Sa mère l'appela du nom Jaébetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. » Mais Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël. Jaébetz signifie dans la langue originale « souffrance » ou littéralement « il cause de la souffrance ». Voilà le départ de notre personnage dans la vie. Souffrance, douleur, tristesse sont les mots qui décrivent le mieux l'arrivée pour cette femme de cet enfant au sein du foyer. Il faut savoir qu'à cette époque, le prénom d'une personne était choisi un peu comme une prophétie ou comme un souhait présageant ainsi de l'avenir de l'enfant. Par conséquent, quand on regarde à ce personnage, rien de bon n'était annoncé pour sa vie. On n'attendait aucune possibilité d'évolution pour ce dernier. Il était condamné derrière son nom à une malheureuse destinée. Notre passage nous révèle que c'est sa mère qui lui a donné ce nom parce qu'elle l'a enfanté dans la douleur. On peut se demander, se poser la question, mais qu'est-ce que cette femme a pu vivre pour appeler son fils ainsi ? La tradition juive veut que le nom de l'enfant soit choisi par le père. Dans les tables de généalogie biblique, la généalogie se fait de père en fils, mais pas pour Jaébetz. Alors on peut se dire, mais est-ce que le père était mort ? Avait-il abandonné le foyer conjugal ? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la vie de cette famille était difficile. Pour que la maman nomme son fils douleur, pour que cette mère appelle son propre fils souffrance, c'est que la situation devait être insoutenable. Ça nous révèle que nous ne partons pas tous dans la vie sur le même pied d'égalité. Alors peut-être que personne ne s'appelle littéralement Jaébetz dans cette salle ce matin. Mais jusqu'ici, peut-être que votre vie peut se résumer à de la souffrance et à de la douleur. Si personne ne vous a donné ce prénom, peut-être que des paroles ont été prononcées sur vos vies. Des paroles qui sont marquées sur vous comme le fer rouge, des paroles qui sont marquées de manière indélébile. Peut-être des phrases comme « tu n'y arriveras pas », des phrases comme « tu n'es pas capable », des phrases comme « tu es un bon à rien », des phrases peut-être comme « j'aurais jamais voulu que tu arrives dans notre vie », « tu es un accident de parcours ». Tout ceci représente des paroles de mort qui peuvent être déposées sur nos vies. Ce type de paroles ont la capacité de nous paralyser, ont la capacité de nous faire végéter dans la vie, de nous faire douter de notre avenir et même de le tuer, de nous faire croire que le seul avenir pour nous, c'est le chaos et la misère. Je le dis souvent, mais on agit toujours en fonction de ce que nous croyons. Si je crois ces paroles qui me sont adressées, qui me sont communiquées, si je crois ces choses qui ont été dites, comme étant une vérité, alors je vais me dévaloriser et je vais faire du surplace. Mais comme nous allons le voir, Jabez a refusé d'accepter la fatalité. Il a refusé d'accepter la destinée que d'autres lui avaient annoncée. Il refusa la sentence, il refusa le verdict douloureux qu'on essayait de lui imposer et qui, dans son cas, avait été prononcé par sa propre mère. Il décide de s'appuyer sur Dieu, mais pas n'importe quel Dieu. Le texte nous dit qu'il décide de s'appuyer sur le Dieu d'Israël. Il s'est appuyé sur le Dieu qui a sorti son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Jabez connaissait l'histoire de son peuple. Il connaissait l'histoire de ce que son peuple a subi en captivité. Mais aussi, il savait comment Dieu avait sauvé son peuple de manière miraculeuse en ouvrant la mer Rouge pour les libérer de l'oppression. Jabez sait que l'Éternel est celui qui peut le délivrer de n'importe quelle situation d'esclavage, de prison dans lesquelles le peuple de Dieu peut être aux prises. Il est un Dieu de miracles qui opère des prodiges encore aujourd'hui. Et je devrais entendre un amen. Il est le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Je veux le proclamer ce matin. Il n'y a pas de chaîne assez forte, de situation assez lourde ou trop compliquée que l'Éternel ne puisse te délivrer. Il n'y a pas de chaîne assez longue, assez forte. Notre Dieu est un Dieu qui se révèle et qui intervient au cœur de nos réalités, au cœur de notre quotidien. On l'a entendu aussi dans le don spirituel ce matin. Dieu ne promet pas une vie facile, mais il promet d'être à nos côtés. Il promet d'être cet appui qui va nous aider à traverser les tempêtes et à en sortir victorieux. Cet amour de Dieu qui se révèle nous a été démontré de manière magistrale par ce Dieu qui est intervenu en personne, en se faisant homme, en Jésus. Jésus est venu dans le monde pour libérer les captifs. Regardez ce que Jésus va dire en lisant un texte qui parlait de lui, un texte qui a été annoncé plus de 700 ans avant sa venue sur terre. Quand Jésus lit le rouleau et dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Quel que soit ce qui te retient captif ce matin, que ce soit une parole mensongère déclarée sur ta vie, que ce soit une addiction qui te tient captif et dont tu n'arrives pas à te débarrasser, cette chose qui peut être en train de détruire ta vie, il n'y a pas de fatalité si tu fais appel à celui qui t'aime et qui est venu dans ce monde pour faire de toi une personne libre. Pour faire de toi une personne libre. C'est le cadeau que Dieu veut faire à chacun. Il veut offrir sa grâce. Il est venu publier une année de grâce. Si tu crois ce matin que tu n'es pas digne de le recevoir parce que tu as fait des erreurs, parce que tu as fait des mauvais choix, parce que tu as fait du mal autour de toi, la grâce de Dieu signifie qu'il veut intervenir dans ta vie alors que tu ne le mérites pas. Amen. Tu ne le mérites pas. Mais Dieu veut faire grâce, Dieu veut t'accompagner, Dieu veut te toucher, Dieu veut intervenir dans ta situation. Dieu t'appelle comme Jabez à abandonner ta douleur et à recevoir sa faveur. Abandonner ta douleur et recevoir cette faveur qui vient de l'Éternel. Il n'y a pas de péché assez lourd que Jésus n'ait pu porter sur la croix. Il n'y a pas de péché assez lourd que Jésus n'est pas capable de porter pour ta vie. Peu importe notre passé, peu importe le regard que les autres peuvent porter sur nous, adressons-nous au Seigneur en lui demandant d'entrer dans ce que lui a déclaré sur nos vies. Patrice Martorano va dire cette phrase par rapport à la fatalité. Il dit « Sortez de votre fatalité. Ne dites plus « Je suis né ainsi, tout le monde me voit comme ça, même mes parents, et rien ne pourra changer ça. Rien n'est plus faux que ça. » Ce n'est pas parce que Jabez était parfait ou parce qu'il a accompli des exploits que Dieu est intervenu dans son histoire, mais parce que Jabez a recherché Dieu. il l'a invité à intervenir dans sa vie. Il a prié, c'est-à-dire qu'il s'est adressé à Dieu. Il est entré en communication avec lui. Et maintenant, on va regarder ce qu'il a demandé dans sa prière. Et c'est mon deuxième point ce matin. Dieu veut nous bénir. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire « Dieu veut te bénir ». Yahébetz dit « Si tu me combles de bénédiction ». Yahébetz demande à Dieu de le bénir. Le terme bénédiction en hébreu, c'est le terme barak qui nous parle de la faveur divine et des forces de Dieu au quotidien pour affronter la réalité. Être béni ne signifie pas combler nos désirs égoïstes en visant des biens matériels, en visant de la reconnaissance, en visant du succès pour un bonheur personnel afin de pouvoir épater la galerie en disant « Regardez combien je suis fort ». Ce n'est pas ça la bénédiction. La véritable faveur divine sert la gloire de Dieu. La véritable faveur divine sert la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui a été créé pour nous, c'est nous qui avons été créés pour Dieu. Souvent, on se prend un petit peu pour le nombril et puis on prend Dieu comme un distributeur auquel je m'adresse pour qu'il me donne des choses. Mais on a besoin de se remettre dans le contexte. Dieu n'a pas été créé pour nous. Nous avons été créés pour Dieu. Notre vie est là pour servir et accomplir les plans du Dieu d'amour et de grâce qui cherche des cœurs, qui cherche à impacter des vies encore aujourd'hui. Demander à Dieu de nous bénir, c'est lui demander d'être le Seigneur, c'est-à-dire celui qui règne, celui qui gouverne, celui qui est le centre de ma vie. Quand Jésus est au centre de nos vies, ça impacte notre façon de vivre au quotidien. Ça impacte mes relations, comment je vis mes relations, comment je vis mes relations de couple, comment je vis mes relations avec mes collègues, comment je vis mes relations avec mes frères et sœurs. Ça impacte ma façon de travailler. Je ne vis pas en essayant de faire du profit, en arnaquant mon patron, mais je vis dans l'intégrité. Parce que je veux faire la différence pour la gloire de Dieu. Je veux que ma vie soit une différence. Dis, il se passe quelque chose de différent dans la vie de cette personne. Quand Jésus est au centre, ça change tout, ça change notre façon d'être. Merci pour le amen là-bas. Entrer dans la bénédiction divine, c'est vivre sa volonté. Vous savez, nous ne serons jamais satisfaits d'une vie à côté de ce que Dieu veut pour nous. Nous ne serons jamais satisfaits. Le don spirituel nous rappelait que quelqu'un avait envie de retourner en arrière. Tu ne seras jamais satisfait de revenir en arrière. Parce que tu seras à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Vous savez, une des définitions du péché, c'est manquer la cible. Dieu a dessiné une cible pour nos vies, que nous devons atteindre, et lui veut nous y conduire pour toucher, pour atteindre le but. Vous savez, notre vie n'aura jamais de sens tant que nous refuserons de nous aligner avec la cible que Dieu a dessinée pour nos vies et de nous aligner avec le chemin qu'il a tracé pour l'atteindre. Nous avons besoin de nous aligner avec le ciel. Yahébetz a pris conscience que Dieu devait être au centre de sa vie. Il devait être sa priorité. Question ce matin, est-ce que Dieu est réellement le centre de ma vie? Ou est-ce qu'il est juste un saupoudrage que j'ajoute pour décorer ma vie? C'est sérieux, frères et sœurs. Est-ce que j'ajoute un petit peu de Dieu pour dire « ben voilà, ma vie est parfaite » ou est-ce que je prends conscience que Jésus est le centre et que ça doit influencer les différentes parties de ma vie? Jésus n'est pas un saupoudrage. Jésus, ce n'est pas du sucre glace qu'on met sur les chocolatines ou les pains au chocolat, je ne sais pas comment on dit en Alsace. Mais ce n'est pas juste un saupoudrage. Il doit être le centre, il doit être le fond. Troisième point ce matin, c'est que Dieu... Après vouloir nous bénir, il veut surtout étendre nos limites. Et Yahébetz lui dit « et que tu étendes mes limites ». Le mot « limite » en hébreu, c'est « gebul ». Ça parle de frontières, ça parle de barrières ou de murs d'emprisonnement. Ça nous parle de territoire. Yahébetz reconnaissait qu'il était limité et qu'il était emprisonné, enfermé dans ce territoire. Il savait que sa souffrance le maintenait captif. Il aurait pu demander « mais Seigneur, pourquoi tout ça, ça m'arrive ?» Mais il ne demande pas ça. Il demande à Dieu d'étendre et de faire grandir ses limites humaines. Il savait qu'il ne pouvait pas tout comprendre, qu'il ne pouvait pas tout savoir. Mais il a compris qu'il pouvait placer ses limites entre les mains du Dieu illimité. Il savait qu'il pouvait placer ses difficultés dans celui qui peut tout, dans ce Dieu tout-puissant. Il désirait abandonner sa conception des choses pour la remplacer par celle de Dieu. Vous savez, Dieu est capable de nous faire vivre l'impossible. Regardez ce que Paul dit aux Éphésiens. Éphésiens 3:20, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Capable de faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer avec nos limites humaines. Dans le contexte de ce passage, Paul prie pour les Éphésiens afin qu'ils soient fortifiés dans leur être intérieur par l'Esprit de Dieu, en étant enracinés, en étant plantés dans l'amour de Dieu qui est si large et si haut que seule une révélation de Dieu peut nous le faire réaliser, infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer. L'amour de Dieu est indescriptible humainement parlant. Vous savez, nous sommes bien souvent limités par toutes sortes de raisonnements dans nos pensées. Mais le Dieu qui habite en nous par son esprit veut nous conduire à sortir de nos limitations de raisonnements qui peuvent nous enfermer. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. C'est ce que Jésus dira lorsque des gens disent mais quand on voit tout ce qu'il faut faire pour toi, c'est pas possible de nous sauver. Il va dire oui, c'est pas possible. Ce qui est impossible à toi, c'est possible parce que Jésus allait donner sa vie à la croix pour changer nos vies. Amen. Brian Houston, le pasteur de Hillsong en Australie, va dire la chose suivante. Dieu peut repousser toutes les limites de votre vie, celles que vous vous êtes imposées ou que d'autres vous ont imposé, et élargir votre cœur et votre projet pour les rendre plus vastes, beaucoup plus hauts, beaucoup plus efficaces que tout ce que vous pourriez imaginer. Alors j'aimerais que tu regardes ton voisin ce matin et que tu lui dises « Tu n'es pas un cas désespéré, Jésus est à tes côtés ». Le Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vit en nous. L'esprit de résurrection est au milieu de nous ce matin. Et il est capable de faire tomber des murailles de raisonnement, des choses qui nous paralysent pour laisser place aux possibilités illimitées de Dieu. On a le droit de rêver avec Dieu. On a le droit de rêver avec Dieu. Ce que Dieu a en réserve pour nous est beaucoup plus grand que nous. Il nous appelle à des choses qui nous dépassent. Et le danger, souvent, c'est que nous, on cherche à limiter Dieu, à l'enfermer dans nos conceptions, de chercher à lui imposer notre façon de voir les choses. En gros, dire à Dieu, écoute, pour ma vie, c'est comme ça que tu dois agir. Je ne te servirai que dans ce cas-là. On cherche à imposer des limites à Dieu. On pose nos conditions. Seigneur, je ferai ceci ou cela si l'ensemble de toutes les conditions sont réunies. Je vous ai rappelé comment, lorsque j'ai quitté la police en 2016, j'avais fait mon petit plan, tout était calé, je vais avoir une disponibilité parce qu'il la donne à tout le monde. Pendant 3 ans, je serai toujours policier, je serai plus payé, j'irai dans l'église, si ça se passe mal, qu'un chrétien m'énerve, je remballe les gaules, je retourne dans la police et terminé. Sauf que Dieu n'avait pas vu la chose de la même façon. Ce qui était accordé à tous m'a été refusé à moi. Et je me rappellerai toujours le désespoir qu'il y avait dans mon cœur à ce moment-là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et alors le Seigneur m'a fait réaliser qu'il voulait que je saute sans filet. On aime bien avoir un petit filet de sécurité quelque part, quelque chose qui nous sécurise pour dire « Voilà les conditions, Seigneur, dans lesquelles moi je peux te donner un petit peu de mon temps pour que tu me serves. Donc, je peux te donner 2 heures le dimanche matin à tel moment, mais après c'est tout parce que je suis overbooké. » On est comme ça, on impose à Dieu des façons de faire. « Je ne te servirai que dans ces conditions-là, sinon débrouille-toi et trouve quelqu'un d'autre. » Le Seigneur voulait que je saute sans filet. Il m'a placé devant un choix, celui de lui faire confiance et le laisser diriger ce que lui avait prévu d'avance. Patrice Martorano dira cette phrase, et vraiment c'est une phrase que j'ai gardée dans mon cœur, c'est pas celle-là, mais elle va arriver après. Faites vos plans au crayon de papier et laissez à Dieu la gomme et le stylo à encre. Faites vos plans au crayon de papier et laissez à Dieu la gomme et le stylo à encre. C'est lui qui veut conduire, c'est lui qui veut diriger. Il dira encore la chose suivante, et cette fois-ci c'est la bonne. Étendre ses limites, c'est sortir de sa zone de confort. C'est entrer dans une dimension que nous ne maîtrisons pas. Vous savez, tant que nous restons dans ce que nous connaissons et de ce que nous savons faire, alors on n'a pas vraiment besoin de Dieu. Mais Dieu désire nous conduire dans des zones où parfois on n'aura pas pied et où nous compterons sur lui pour pouvoir marcher sur l'eau, pour pouvoir traverser. Vous savez, les conditions idéales pour étendre nos limites ne sont pas les standards que nous voulons poser comme non négociables. Mais pour vivre cette dimension d'étendre nos limites, nous avons besoin d'aller à l'endroit que Jésus a décidé d'avance. Entrer dans ce que Jésus a prévu pour nous. Dieu veut nous conduire au-delà de nos façons de penser qui peuvent nous enfermer afin qu'on puisse accéder à notre destinée, afin qu'on puisse entrer dans ce qu'il veut. Ensuite, Dieu veut nous préserver du mal. Si ta main est avec moi et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur. Yébeth demande la main de Dieu sur lui, c'est-à-dire la conduite de Dieu. C'est le genre de prière que Dieu veut entendre. Seigneur, conduis-moi. Peu importe là où tu veux, mais conduis-moi et dirige-moi. Parce qu'une fois qu'on est en dehors de nos limites, il n'y a que Dieu qui peut nous tenir. Parfois, nous maintenir quand on est en train de glisser. Et bien souvent, nous soutenir quand nous avons trébuché. Dieu veut nous tenir, nous maintenir et nous soutenir. On a besoin de sa main. On a besoin qu'il nous accompagne. Mais Yahébès va ajouter une chose. Il va dire que le malheur s'éloigne de moi. Alors, la traduction française est mauvaise et elle nous donne l'impression qu'il est en train de prier pour qu'il n'y ait pas un coup du sort qui s'abatte sur sa vie. Mais le terme employé ici, c'est Rao, et qui va beaucoup plus loin. Il signifie méchanceté, mal, le mauvais, ce qui vient du malin, mauvais moralement, mauvaise disposition, adversité, désastre. Martorano explique encore la signification de ce passage en ces termes. Il dit « Préserve-moi de pratiquer le mal ou toute œuvre malhonnête et d'être séduit par des valeurs immorales. Garde mon cœur de sombrer dans de mauvaises dispositions qui me conduiraient à transgresser tes préceptes et à pécher contre le ciel. » Donc, Yébeth ne prie pas simplement contre le malheur, mais il prie pour ne pas être une cause de malheur pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est notre prière ? En tant que chrétien, est-ce que c'est notre prière ? De ne pas toujours dire « Seigneur, préserve-moi de la souffrance, préserve-moi des difficultés », mais dire « Seigneur, fais que je ne sois pas une cause de difficulté pour quelqu'un. Fais que je ne sois pas une cause de souffrance pour quelqu'un. Fais que je ne sois pas une cause de douleur pour quelqu'un. » Claude Oud, toujours après ce passage, Claude Oud, pasteur à l'Église Nouvelle Vie, dira « La limite est tracée », en parlant de cette prière de Yébeth. « La perpétuation et la propagation de ce qui est mal et douleur s'arrêtent ici. La dynastie dysfonctionnelle se termine derrière moi. Je ne ferai pas subir à ceux que j'aime ce que j'ai vécu. » Dieu veut répondre à ce genre de prière qui refuse que des cycles sans fin se perpétuent, du genre « J'ai été blessé, alors je vais blesser. » Tous ces fonctionnements destructeurs qui se perpétue de génération en génération. Yébeth a refusé cela et nous devons faire de même. Jésus nous a donné sa vie à la croix pour mettre fin à des cycles de mort qui peuvent s'abattre. Et ça commence par nous ce matin ici à Strasbourg en 2019. De prier, Seigneur, je veux mettre fin à ces cycles de mort. Je ne veux pas être un canal de la mort, mais je veux être un canal de la vie de Jésus-Christ. Par son esprit, quelqu'un devrait dire Amen. Que ne soyons pas un propagateur du mal, que ce soit notre prière. Seigneur, préserve-moi du mal, mais que je ne sois pas un propagateur, un mec qui continue à alimenter le mal. Cette prière de Yahébetz, elle trouve un écho dans le Nouveau Testament, dans la prière du Notre Père. Matthieu 6, 13 nous dit « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. » Nous avons besoin de nous appuyer sur les forces de Dieu pour résister à la tentation de rendre aux autres le mal qu'ils peuvent nous faire. Résister à la tentation de rendre aux autres le mal qu'ils peuvent nous faire. Mais par la grâce et la puissance de Dieu qui vit en nous, c'est possible de mettre aujourd'hui à mort des cycles de destruction. C'est possible de mettre à mort des cycles de destruction. On arrive à notre dernier point ce matin, je vais inviter l'équipe à revenir. La prière qui ouvre le ciel. La fin de cette prière, on nous dit « Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». Lorsque nous sommes dans cet état d'esprit de nous appuyer sur Dieu, de rechercher sa bénédiction, en nous alignant avec sa volonté, en lui demandant d'étendre nos limites, ces limites qui peuvent être transformées par lui, et en le priant de nous garder d'être une source de malheur, de nous garder de nous-mêmes, Dieu nous accorde toujours ce que nous demandons. Prier selon le cœur et la volonté de Dieu est toujours efficace. Et ceci, pardon, nous amène à comprendre pourquoi notre texte commence par la phrase « Jabez était plus considéré que ses frères ». Le terme employé pour le mot « considéré », c'est le terme « kabad » qui nous parle de ce qui est glorieux, de ce qui est honorable, de ce qui a du poids. Ce n'est pas parce qu'il était un champion que Dieu lui accorde ce titre. On l'a vu, son démarrage était compliqué, son démarrage n'était que douleur. Mais parce qu'il a décidé de s'appuyer sur Dieu, il est passé de la douleur à l'honneur. Tu peux venir si tu veux. La gloire de Dieu est descendue sur celui qui a fait appel à lui. Il s'est saisi de ce que Dieu avait en réserve pour lui. Et je crois que ce matin, Dieu veut faire descendre sa gloire au milieu de nous. Je crois qu'il veut faire descendre sa gloire sur quiconque aspire à dépendre de lui et à quiconque aspire de dire « Seigneur, étends mes limites ». Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être, de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Celui qui place sa foi en Dieu et ses promesses, celui qui aligne sa vie sur le ciel, va vivre ce que le ciel a en réserve pour lui. Je crois que des chaînes de limitation vont tomber ce matin dans ce lieu. Je voudrais qu'on prenne un temps particulier ce matin. Si tu te sens comme Jabez, où tu dis « Mais oui, ma vie à moi, elle n'est que douleur et que souffrance. » Je crois que le Dieu qui a répondu à Jabez est encore le même aujourd'hui. Tu peux venir devant Dieu avec tes souffrances, tes douleurs. Tu peux faire un signe au ciel pour dire « Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin que tu touches ma vie. J'ai besoin que tu transformes ma vie. » Il est ce Dieu présent au milieu de nous. La Bible nous dit que quand deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Et je crois ce matin qu'il invite plusieurs à s'avancer, pour dire « Je veux mettre fin à ce processus de douleur qui est sur ma vie et je veux entrer dans les projets que tu as formés d'avance. Je veux croire qu'il y a infiniment au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Il y a plus avec Jésus-Christ. » Ce matin, si c'est ton cas, alors que je vous invite à fermer les yeux. Si tu te sens interpellé dans ton cœur, je t'invite à te mettre debout à ta place, comme un signe au ciel pour dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que ce cycle de mort, j'ai besoin que toutes ces paroles de mort qui ont été mises sur ma vie soient brisées. Je veux croire que tu ne m'enfermes pas dans les mots qui ont été dits sur ma vie, mais que tu as une destinée pour moi. » Alléluia. Je crois que Jésus veut toucher, veut encourager et fortifier ce matin. Tu vois, Seigneur, tous ceux et celles qui se lèvent, qui se sentent comme enfermés dans des prisons. Tu es celui qui est venu proclamer aux captifs la délivrance. Et je proclame ce matin que des chaînes sont en train de tomber au nom de Jésus. Alors que tu saisis la présence de celui qui change des vies encore aujourd'hui. Il veut nous toucher, il veut nous fortifier, il veut conduire ta vie. Il a une destinée pour toi. Seigneur, viens encourager et fortifier dans ce lieu ce matin. Seigneur, que toutes ces paroles qui sont imprimées là, peut-être qu'il y a des gens qui ressassent ça tout le temps. Je te prie, Seigneur, pour passer ton marqueur, pour passer le blanco sur des paroles qui paralysent depuis tant et tant d'années. Seigneur, c'est toi qui as le stylo à la plume de nos vies. Seigneur, je te prie d'inscrire encore ta vie sur des cœurs ce matin qui viennent et qui disent « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Je te prie vraiment de toucher, de souffler, de visiter, d'encourager. Que les paroles de mort soient brisées et que la vie de Jésus jaillisse en abondance. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou même imaginons. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. Et je prie que l'esprit de résurrection souffle ce matin, peut-être sur des appels étouffés, sur des appels brisés. Seigneur, touche, viens raviver la flamme. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Peut-être tu as enterré des choses que Dieu t'avait demandé de faire, à cause de tes erreurs ou à cause de ce que d'autres ont pu dire. Mais l'esprit de résurrection est dans ce lieu ce matin. Et il est en train de percuter ton cœur à cet instant précis. Et il te dit qu'il y a plus pour ta vie. Que l'esprit de résurrection souffle ce matin dans ce lieu. Inonde-nous de ta présence, Jésus. Que l'esprit de consolation vienne toucher ce matin au milieu de nous. Seigneur, des blessures qui sont là comme vives et ouvertes, comme des plaies saignantes. Seigneur, je t'invite à passer encore ce matin sur ces blessures, de venir refermer point après point ces blessures. Tu es celui qui amène les choses mortes à la vie. Tu es celui qui amène la vie ce matin. Viens toucher et viens remplir dans ce lieu. Alors que nous allons reprendre ce chant qui dit « Sonde de moi et Dieu et connais mon cœur ». On veut inviter ce matin le Seigneur à régner. Alors qu'on puisse prendre ce chant comme une prière, dire « Seigneur, sonde de moi. Tu vois les difficultés, mais je veux m'appuyer sur toi ».